Eh bien, on va parler d'actualité internationale avec François La Rochelle, ancien diplomate canadien. Bienvenue, re-bonjour, re-bienvenue à l'émission. Alors, aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui se prépare à un long et froid hiver. La Russie de Vladimir Poutine continue de frapper quotidiennement les approvisionnements énergétiques et le réseau électrique de l'Ukraine. Ces attaques causent des coupures d'électricité majeures, mais surtout, elles mènent à leur lot de destruction et de perte de vie.
Oui, absolument. Les frappes massives de drones et de missiles russes se poursuivent sans relâche. Seulement en octobre, on dit que la Russie aurait lancé près de 300 missiles balistiques sur l'Ukraine, ce qui serait le nombre mensuel le plus élevé depuis le début de la guerre. Le même mois, la Russie a lancé 5300 drones. Les Ukrainiens subissent désormais des coupures de courant régulières pouvant durer jusqu'à 16 heures par jour. Et c'est froid en hiver en Ukraine. Les responsables ukrainiens craignent que ce soit leur pire hiver depuis 4 ans. La Russie vise non seulement la destruction complète du système énergétique ukrainien, mais probablement au bout du compte, celle de toute l'économie du pays.
Ouais, et sur la ligne de front, les nouvelles sont sombres.
Oui, il y a de plus en plus de signes que la ville clé de l'est de l'Ukraine, Pokrovsk, excuserai mon ukrainien, pourrait tomber, ce qui donnerait aux forces russes un coup de pouce moral et une nouvelle plateforme pour s'emparer de davantage de territoires. Ceci dit, les Russes ne sont encore qu'à environ 40 kilomètres de l'endroit où ils ont commencé leur invasion à grande échelle. En 2022, c'est pas beaucoup. Et c'est un territoire conquis au prix de centaines de milliers de soldats russes. Cependant, en prenant cette ville, Poutine espère sans doute convaincre le président Trump qu'il réalise des gains sur le champ de bataille et ainsi mettre de la pression sur Kiev pour qu'elle demande la paix. Mais Trump a d'autres priorités, comme on le sait, de ce temps-ci. Il y a l'affaire Epstein, il y a aussi le Venezuela, Gaza, etc. Et ce sont tous des dossiers dont il ne peut se débarrasser.
Et surtout, que les sondages le démontrent, il est à un pire niveau d'impopularité qu'il l'a été lors de son premier mandat. Et en fait, il est encore plus impopulaire que l'avait été Biden à pareille date dans son mandat. Ça va pas bien pour lui. Un autre problème pour les Ukrainiens, c'est un énorme scandale de corruption qui touche le gouvernement.
Oui, des ministres sont soupçonnés d'avoir touché des pots de vin sur des contrats pour construire des structures défensives autour des centrales nucléaires ukrainiennes. Environ 100 millions de dollars auraient transité dans des opérations de blanchiment. Et ces accusations ne pouvaient évidemment pas tomber à un moment plus délicat alors que la population ukrainienne souffre de longues coupures de courant. La corruption qui est endémique en Ukraine nuit à la réputation du gouvernement et de la présidence Zelensky auprès des pays qui financent la guerre contre la Russie et ça inclut bien sûr le Canada. Les personnalités impliquées dans ce scandale seraient un ancien ministre de l'énergie depuis qu'il est devenu depuis ministre de la Justice, mais surtout un homme d'affaires proche du président Zelensky, qui était très influent au gouvernement et dans les milieux de la défense de l'énergie et de la télévision. Il a d'ailleurs fui le pays pour Israël, apparemment.
De plus, là, pour l'instant, les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre semblent être en suspens.
Oui, les plans d'un sommet entre Poutine et le président Trump sont mis de côté après que Moscou ait refusé de céder à ses objectifs de guerre maximalistes et que Trump ait imposé en retour des sanctions sur le pétrole et le gaz russe. Pendant ce temps, l'Union européenne ne s'entend toujours pas sur ce qu'il faut faire avec les quelques 180 milliards d'euros d'actifs russes gelés dans des banques en Europe. Cet énorme pactole pourrait être prêté à l'Ukraine puis remboursé éventuellement si la Russie versait un jour des réparations financières à l'Ukraine après la fin de la guerre. C'est un montage financier risqué et légalement très compliqué.
Bien, parlons de la population. Là. La population ukrainienne, elle doit être fatiguée. Là. Ça fait quand même 4 ans de guerre.
Oui, effectivement. Mais pourtant, en octobre dernier, lors d'un sondage fait par l'Institut international de sociologie de Kiev, 56 % des quelques 1000 Ukrainiens qui ont été interrogés se sentaient optimistes quant à l'avenir du pays. Poutine doit évidemment désormais espérer qu'avec un hiver difficile et des victoires sur le terrain, il viendra finalement à bout du moral des Ukrainiens qui ont cependant démontré jusqu'à maintenant une résistance et un courage exemplaires.
On note cependant que la menace russe a changé d'échelle en Europe.
Effectivement, ce n'est plus seulement l'Europe qui est attaquée. Le conflit se dépasse. L'Ukraine qui est attaquée, c'est le conflit maintenant se déplace ailleurs en Europe. Poutine cherche à faire peur aux Européens pour qu'ils cessent d'aider l'Ukraine. Une guerre hybride venant de Russie, faite d'incursions de drones, de désinformation ou d'attaques cyber, s'est intensifiée spectaculairement ces derniers mois. Des drones arrivés de nulle part, mais probablement russes, sème le trouble autour de points stratégiques de l'espace aérien européen, que ce soit en Allemagne, en Belgique, en Suède et même en France. Un affrontement de la Russie avec un pays de l'OTAN est aujourd'hui une menace plus sérieuse. D'ailleurs, les services de renseignement et les militaires de l'OTAN multiplient les avertissements. Si la résistance ukrainienne ou la cohésion de l'OTAN venait à faiblir, le risque d'une confrontation armée ouverte entre la Russie et l'Europe augmenterait d'autant.
Ah, mon Dieu, tout un... En tout cas, c'est une possibilité qui est assez difficile à voir, hein? Mais bon, on va essayer de rester optimiste.
Oui, les experts parlent d'un horizon allant jusqu'à 2030 pour possible conflit avec la Russie.
Bon, un règlement de paix donc semble donc très lointain, là.
Oui, Poutine est enhardi par les ambiguïtés de Trump et les hésitations de l'Europe. Ce qui pourrait avoir un impact sur sa politique serait qu'il ne puisse plus avancer en Ukraine sans subir des sacrifices économiques, sociaux et politiques qui mettraient en danger son pouvoir autocratique. Mais cela ne semble clairement pas le cas pour le moment. Et donc, l'OTAN doit assurer une aide constante et massive à l'Ukraine et continuer d'assumer le rapport de force face à la Russie. Poutine est persuadé que la pérennité de son pouvoir et sa place dans l'histoire dépendent du contrôle de l'Ukraine et d'une revision de l'architecture européenne. Le discours russe traduit de vieilles obsessions impériales, même si cette illusion coûte cher au plan des pertes en vies humaines et pour son économie. L'un des grands échecs de nos pays est de ne pas avoir pris Poutine au sérieux. Nous en payons maintenant le prix et il n'y a pas grande lumière au bout du tunnel. À moins, évidemment, que Trump ne change d'idée comme il le fait souvent et donne les moyens aux Ukrainiens de gagner la guerre.
Oui, parce que c'est ça l'enjeu. Ils ont besoin de ressources pour se défendre. Les ressources russes ne sont pas quand même illimitées. J'en reviens pas, là, parce que l'économie de ce pays-là ne va pas si bien que ça.
Non, et c'est une toute petite économie quand on compare à l'économie mondiale, mais il reçoit bien sûr l'aide des Chinois, des Nord-Coréens et même des Iraniens, parce que les fameux drones là, dont qu'il lance à qui mieux sur l'Ukraine, ce sont des drones d'origine... iranienne, mais montée maintenant en Russie.
Wow. Bon, on n'est pas sorti du bois, mais on va garder d'espoir un peu. Ouais. Merci beaucoup, François Larochelle, ancien diplomate canadien.